Chers téléspectateurs, bonjour. Notre nouveau Zoom d'été sur la bioéthique, sujet qui évidemment est déjà d'actualité avant même la campagne présidentielle avec les débats au cours des dernières semaines. Nous en parlons avec Jean-Frédéric Poisson. Jean-Frédéric Poisson, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Alors Jean-Frédéric Poisson, vous êtes le président du parti VIA, vous avez été député quelques années, vous avez aussi été à l'Assemblée nationale vice-président de la Commission des lois. Alors évidemment, à l'Assemblée nationale se joue en ce moment un terrible débat. Nous enregistrons cet entretien le 15 juillet, c'est-à-dire quelques heures avant le vote solennel de la loi dite, entre guillemets, et de très grands guillemets, aide à mourir, le suicide assisté et l'euthanasie. Peut-on dire que pendant ces dernières semaines, les débats ont été à la hauteur d'un sujet aussi grave où il s'agit de vie humaine?
C'est-à-dire, c'est, j'ai la même impression que lorsque le Parlement a été saisi il y a plus de 30 ans pour savoir si on pouvait protéger l'embryon humain par le droit et comment il fallait le faire. C'est-à-dire que le Parlement, en se saisissant, puisque c'est une proposition de loi, c'est même pas le gouvernement qui a demandé au Parlement de légiférer, c'est une autosaisine d'une certaine manière, la proposition de loi de mon collègue Falorni, qui est en train de poursuivre son trajet, est en fait une autosaisine par le Parlement d'un sujet dont il ne devrait pas avoir à débattre dans un monde normal. C'est-à-dire que dans un monde normal, on accepterait la vie humaine comme un donné, intouchable, qu'on n'a pas le droit de manipuler, ni de sacrifier, ni de supprimer, ou de maltraiter, et on s'en tiendrait là, et puis le reste, voilà le cadre dans lequel on évoluerait, tout le reste pourrait être décidé à cette aune. C'est d'ailleurs ce que dit le Code pénal jusqu'à aujourd'hui. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il est interdit de tuer son prochain, sauf situation de légitime défense. Alors, j'ai bien conscience que l'avortement est entré dans la Constitution, enfin, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais pour le commun des mortels, pas pour moi, mais pour le commun des mortels, l'embryon n'est pas une personne humaine. Le malade en fin de vie est une personne humaine. Tuer les embryons dans le ventre de leur maman, ça n'est pas un problème. Je répète que pour moi, c'en est un. Et plus que ça, alors que tuer une personne humaine sur son lit de mort, ça, c'est quand même problématique, parce que ça, c'est une vraie personne, entre guillemets.
Oui, en tout cas, aux yeux, de façon communément admise.
Voilà, c'est ça, et pas plus que ça. Mais néanmoins, c'est ce qui fait le cœur du débat public également. Or, sur cette affaire-là, sur le fait de pouvoir attenter à une vie humaine, d'une personne humaine, sans commettre une infraction, c'était impossible jusque-là. Le consensus était établi. Il est interdit de tuer. Et si on commence à intégrer dans le droit des exceptions à cet interdit de tuer, on met en danger la société tout entière. Ce qui répond d'ailleurs, pour conclure sur cette question, à un argument qu'on entend souvent de la part des promoteurs de l'euthanasie qui disent « mais ça ne retire rien à personne ». Si, si. Ça fragilise tout le monde. Parce qu'en réalité, l'interdit de tuer protège l'intégrité physique de chacun et chacune d'entre nous, sans exception, sans condition et sans restriction. À partir du moment où vous faites entrer une exception dans ce droit, alors la vocation des exceptions, c'est pas de se réduire, c'est de s'étendre. Donc petit à petit, on fragilise l'ensemble du corps social. Donc même si je ne suis pas partisan de l'euthanasie, le ciel m'entende, je ne l'utiliserai jamais, ni pour moi ni pour mes proches. En attendant, je suis quand même moi fragilisé, même si ça ne me concerne pas.
– Oui, ce sont des points qui ont été évoqués lors des débats au Parlement. Ça peut être une pression insidieuse sur des personnes fragiles, un désespoir aussi par manque d'accès aux soins palliatifs, et puis aussi avec un terrible langage sémantique, parce que dans ces débats autour de la bioéthique, l'usage sémantique est une arme redoutable. On parle de dignité, on parle de mort dans la dignité. On laisse passer un message, même implicite, qu'une personne qui pourrait être gravement malade serait indigne.
Dans tous ces débats, il y a un point commun, il y en a beaucoup, mais il y en a un en particulier qui est la volonté des promoteurs de ces idées, entre guillemets, nouvelles, de subvertir le langage. Quand on évoque la question de l'avortement, question extrêmement douloureuse, j'y reviens, mais c'est au cœur des débats bioéthiques, ces partisans parlent d'une interruption volontaire de grossesse. Mais une interruption, on interrompt quelque chose qui a vocation à repartir. Il faudrait dire arrêt. Mais ce n'est pas une interruption. Sauf si c'est centré sur la mère. Parce que la mère, elle peut évidemment connaître d'autres grossesses ultérieures. Donc la grossesse envisagée comme un état parmi d'autres du corps de la mère, effectivement, cette grossesse-là s'interrompt. C'est-à-dire la grossesse pour cette personne s'interrompt, puis ça reprendra plus tard. Le point de vue de l'embryon ici n'est pas traité. On parle de gestation pour autrui au lieu de mère porteuse. C'est joli, gestation pour autrui. Comment voulez-vous être contre quelque chose qui est pour autrui? C'est un service. Vous ne pouvez pas être contre un service. On parle d'aide à mourir, pas d'euthanasie, ni de suicide assisté. Donc à chaque fois, Il faut camoufler la réalité parce qu'elle est crue, elle est brutale, elle est violente, elle est inacceptable dans une large mesure. Il faut camoufler cette réalité derrière une opération de subversion du langage parce que il y a là, comment dire, derrière tous ces textes, une forme de violence telle que si vous dites les choses crûment sur les plateaux de télé, de radio, dans les journaux, ce que d'ailleurs on a commencé à faire, eh bien l'opinion publique finit par se rendre compte de la réalité et petit à petit, quand elle se rend compte de la réalité, bah, elle prend conscience que c'est pas possible. Et d'ailleurs, l'évolution des enquêtes, en particulier le point très important donné par la Fondapol et Dominique Régnier, l'enquête qu'il a faite avec, je crois, les AFC, les associations familiales catholiques, il y a quelques mois maintenant, a manifesté que dès qu'on dit à l'opinion ce dont il s'agit pour de vrai, les Français sont contre. Ce qui veut dire qu'il reste quand même un fond de bon sens assez partagé dans notre peuple.
Pardon. Effectivement, vous parlez de bon sens, et c'est juste de le rappeler parce qu'il y a une sorte de piège, là aussi une arme redoutable, souvent utilisée par les promoteurs progressistes de l'euthanasie, l'avortement, la GPA, etc. C'est que une technique visant à confessionnaliser ces questions, comme si en fait vous êtes croyant, c'est naturel que vous soyez contre l'euthanasie, mais si vous n'êtes pas croyant, vous n'avez pas de raison particulière d'être opposé à l'euthanasie. C'est un piège très redoutable.
Bien entendu, il y en a des milliers d'être opposé même quand on n'est pas croyant. Je me permets de redire aux auditeurs, je suis catholique pratiquant, ce n'est pas un secret pour personne. Je préside un parti qui s'appelle Parti chrétien-démocrate, même s'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes que parmi nos adhérents. Le contenu de la foi catholique, c'est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est ressuscité et on peut aller au paradis en passant par lui. Et parce qu'il nous faut. Voilà, ça c'est le contenu de la foi. Il n'y a pas marqué dans le credo qu'il est interdit d'euthanasier. Il y a quelque part dans la loi mosaïque, les tables de la loi que Moïse reçoit des mains de Yahvé, il y a un commandement qui dit « tu ne tueras point ». Alors son origine, en tout cas du point de vue hébraïque, elle est religieuse, puisque c'est Dieu qui donne sa loi aux hommes. Mais enfin, il n'est pas nécessaire d'être croyant pour considérer que tu ne tueras point, c'est une mesure de sagesse, comment dire, assez pratique et assez commode, finalement, on s'y fait assez volontiers. Donc, du point de vue de la raison naturelle, il n'y a que deux écoles possibles. Soit vous acceptez l'idée que tous les êtres humains sont strictement égaux en dignité et que, de ce fait, il est interdit d'attenter à la vie d'un être humain, de la part d'un autre être humain, je mets de côté les cas de légitime défense. Soit vous êtes dans cette école-là, et au nom de l'égale dignité de tous, il est interdit d'attenter à la vie de son prochain. Ça, c'est pas une donnée religieuse, c'est une donnée philosophique qui peut être établie par la raison naturelle. Ou alors, l'école inverse, il y a des catégories dans les êtres humains, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont droit, de domination, ou de prescription, parfois de vie et de mort, sur d'autres. Et donc, nous sommes dans un régime d'inégale dignité. Là encore, tout ça sont des choses qui sont accessibles, je mets des guillemets, par la raison naturelle. La religion, elle entre là-dedans comme une forme de confortation, comme une forme de, soit de socle, soit d'aspiration, soit les deux, d'ailleurs, c'est comme vous voulez. Mais du strict point de vue de la raison naturelle, la dignité humaine est une notion qui est parfaitement approchée par les philosophes, sans pour autant recourir, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de philosophes, sans recourir à des arguments d'ordre théologique.
Voilà, pas d'ordre théologique ni d'ordre de politique politicienne, parce que ce qu'il faut noter dans ces débats sur l'euthanasie, c'est qu'il y a eu un groupe parlementaire, précise ma question, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à penser que les conservateurs seraient de droite, les progressistes seraient de gauche, ce qui est vrai à une certaine majorité.
C'est souvent vrai. Oui.
Mais notons tout de même que, mis à part l'Union des droites pour la République, l'UDR, dont le groupe parlementaire a voté à l'unanimité contre l'euthanasie, oui, tous les autres groupes de députés ont eu moins un opposant à l'euthanasie.
Absolument.
Communistes, LFI, écologistes, ils ont tous eu moins un opposant. La bioéthique dépasse donc les clivages de droite et de gauche.
Depuis longtemps, il faut se souvenir que lors des premières lectures des lois dites de bioéthique à la française, c'est-à-dire celles dans lesquelles on organisait les grèves d'organes, les dons d'organes, les dons d'ovocytes, le statut de l'embryon, etc. Donc c'est la loi de 1994. Les communistes s'étaient très remontés contre ces lois parce qu'elles y voyaient aussi une forme d'instrumentation d'abord de la femme et deuxièmement une logique financière qui s'invitait d'une certaine manière dans des questions fondamentales liées à la vie, Et l'aversion à l'époque des communistes à l'égard du capitalisme dominant était bien plus prononcée qu'aujourd'hui. Donc les communistes militaient volontiers contre, et d'ailleurs il y avait, chez tous les observateurs, beaucoup d'observateurs de gauche, des juristes, des psychanalystes, qui ont milité contre ces lois pour ces différents motifs. Évidemment que la bioéthique et heureusement d'une certaine manière qu'elle est un sujet transpartisan, parce que, comme vous l'avez dit, elle touche à la nature humaine. Pas à l'homme comme créature, ça c'est un point de vue de croyant. Alors vous avez le droit d'être croyant et politicien, hein, j'en suis un exemple, et il y en a bien d'autres, Dieu merci. Mais encore une fois, simplement du strict point de vue de la raison naturelle, l'idée que finalement, un être humain c'est intouchable. Encore heureux que cette conviction traverse les groupes politiques et les partis politiques. Ce qui est malheureux, c'est qu'elle ne fasse pas l'unanimité au point qu'on refuse de débattre d'une loi pareille. Et vous savez, je cite ça souvent parce que c'est très emblématique de la modernité en ces matières. Je vais prendre une minute pour expliquer ça si vous voulez bien. Avant la lecture des lois de bioéthique en 1994, c'est la seconde lecture à l'Assemblée nationale, Jean-François Mattei, qui est à l'époque député, Mattei a été ministre de la Santé une dizaine d'années plus tard avec Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin, c'est un très grand généticien de l'hôpital de la Timone à Marseille, publie un rapport qui remet au Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur. Ce rapport, il est censé préparer les débats parlementaires du printemps suivant. On est en novembre 1993, les débats s'ouvriront en avril 1994 à l'Assemblée. Ce rapport s'appelle « La vie en question ». Nos auditeurs peuvent le trouver sur le site de la documentation française. La vie en question, évidemment. Au pluriel, puisque maintenant, pour être sérieux, il faut parler au pluriel, paraît-il. Et dans l'introduction de ce rapport, il y a cette phrase qui dit tout, et que je cite entre guillemets mot pour mot. Il appartient désormais au corps social de fixer lui-même les limites au-delà desquelles il ne reconnaît plus la forme de l'humaine condition. Fin de citation. Donc quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous ne dites plus comme l'humanité l'a fait pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires, j'ai en face de moi un être humain, il est intouchable, j'ai pas le droit de lui faire du mal. Et si je lui fais du mal, petitement ou grandement, je serai puni petitement ou grandement. Maintenant, le corps social dit « ça c'est un homme, ça c'est pas un homme », en parlant d'êtres humains. D'autres philosophes avaient dit quelques années auparavant « ça c'est un humain, c'est pas une personne, ça c'est un humain, c'est une personne ». C'est la même chose. Nous sommes dans une logique, c'est le sens de la loi de bioéthique, qui est une logique de tri entre les êtres humains. Un tri sélectif, comme on dirait en voulant faire un mauvais jeu de mots. Il y a ceux qui ont le droit de trier et ceux qui sont triés. Ceux qui ont le droit de trier sont protégés par le droit. Ceux qui sont triés sont ou pas protégés par le droit, selon la bonne volonté de ceux qui trient. Voilà le monde dans lequel nous entrons, qui est radicalement contraire à toute l'œuvre de civilisation que le judéo-christianisme, avec les apports des Grecs, des Romains et d'autres, ont instauré dans le monde occidental et dans le monde entier.
– Alors, donc tout ceci déconstruit la fable qu'on entend couramment sur la liberté qui n'est enlevée à personne. Là, en fait, c'est la liberté d'être reconnu comme un être humain qui peut être supprimée.
– Oui, c'est même sa forme la plus ultime, sa forme suprême, puisque dès lors que j'ai la certitude que personne ne peut attenter à ma vie, c'est-à-dire supprimer mon existence, d'une certaine manière, je peux vivre tranquille. Ça ne veut pas dire que je vis facilement, sans contrainte, sans difficulté, sans souffrance. Non, mais en tout cas, du point de vue de mon maintien dans l'existence, tant que je ne me mets pas moi-même en danger, personne ne peut me faire du mal. Volontairement, s'entend, je mets de côté les accidents, etc. En tout cas, c'est interdit. Mais dès lors que c'est permis dans une circonstance, qu'est-ce qui empêche qu'ensuite il y ait une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième circonstance? C'est exactement ce qui se passe dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie il y a plus ou moins longtemps. Les pays du Benelux, le Canada, un certain nombre d'autres pays en tout cas, et dans lesquels on constate de manière absolument constante une dérive en termes d'assouplissement des critères d'éligibilité, comme on dit, qui permettent aux gens de bénéficier, je mets des guillemets, sont les termes de la loi, de l'euthanasie. Encore une subversion formidable du langage. Comment pouvez-vous prétendre bénéficier d'une euthanasie, c'est-à-dire bénéficier de quelque chose dont vous n'aurez pas les fruits? Comment c'est possible, ça, encore une preuve d'amodiation et d'arrangement du vocabulaire. Dans tous ces pays, Canada, Benelux, enfin Belgique, Pays-Bas particulièrement, on constate qu'au début, on ne pouvait pas euthanaser les mineurs, maintenant on peut, on ne pouvait pas euthanaser les dépressifs, maintenant on peut. Il y a un cas récent au Canada qui s'est déroulé où, effectivement, un homme de 45 ans qui était dépressif, qui avait une maladie mais qui n'était pas spécialement mortelle, à plus ou moins long terme, mais qui était devenu intolérable pour lui. Il a vu son médecin, il a demandé à être euthanasié, ça a pris un quart d'heure et sa famille a été prévenue par SMS. Donc voilà le genre de dérive auquel on aboutit. C'est inéluctable. Les logiciens disent qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Quand elle est entrebâillée, elle est ouverte. Et quand elle est entrebâillée, ben il suffit de la pousser un petit peu pour qu'elle s'ouvre de plus en plus grand. Donc en fait, ce qui est supprimé aujourd'hui, l'interdit de tuer qui me protège, comme un autre interdit me protège par définition, c'est un interdit de principe dans une large mesure, celui qui conditionne tous les autres. Si celui-là saute, tout le reste est fragilisé, donc je suis moi aussi fragilisé.
Et puisque la porte est entrebâillée, oui, c'est même assumé par certains promoteurs de l'euthanasie, comme l'ancien député Jean-Luc Touraine, qui parlait du pied dans la porte, il faudra revenir chaque année une fois que l'euthanasie sera légalisée. Alors, justement, parlons de la campagne présidentielle à venir. Peut-on espérer que si, ce qui est probable, l'euthanasie et l'assisté sont adoptés dans les semaines à venir, ça deviendra un thème de campagne présidentielle?
Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup. J'ai entendu le rapporteur général, Philippe Vigier, je le connais bien, on va dire que c'est un vieux copain. On a mené quelques bagarres ensemble au Parlement pendant nos mandats respectifs. C'était mon voisin géographiquement, puisqu'il est de l'Eure-et-Loire et moi du sud des Yvelines. Donc on a mené quelques dossiers ensemble. C'est un homme, tout à fait intègre, voilà, mais moderne au mauvais sens du terme, malheureusement. Il est devenu le rapporteur général de cette loi. Et l'autre jour, aux quatre colonnes, à la salle des quatre colonnes, à l'Assemblée nationale, il a dit, mais vous savez, c'est comme toutes les lois sociétales, personne ne reviendra dessus. Alors, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça parce que d'un point de vue progressiste, le fait que personne ne revienne dessus est une forme de justification de la légitimité de ces lois, malgré les oppositions. Et au fond, quand vous êtes progressiste, vous raisonnez comme Marx, c'est-à-dire vous dites les réactionnaires, ils ne peuvent pas faire autre chose que de la réaction, parce que comme ils sont nés dans le mauvais camp, bah, il faut bien qu'ils fassent leur boulot, il faut bien que la dialectique entre les différentes classes puisse faire avancer l'histoire. Ça, c'est le point de vue de Marx. Donc, en réalité, le progrès, il est inéluctable et ce qui est des opposants n'est pas autre chose qu'une forme de légitimation de son existence et de sa vérité. Mais là, c'est pareil. Dans l'esprit du rapporteur général, le fait qu'on ne reviendra pas sur cette loi, pense-t-il, est la preuve du fait que c'est une bonne loi. Moi, je pense que c'est la preuve d'une forme de lâcheté des gens qui arrivent au pouvoir et qui devraient les supprimer, qui ne les suppriment pas. Pas autre chose que ça. J'ai vécu de l'intérieur la campagne présidentielle de 2002. J'étais le directeur de la campagne de Mme Boutin. À l'époque, elle était la seule candidate qui a annoncé qu'elle voulait revenir absolument sur les 35 heures pour rétablir le temps de travail de manière à 39 heures. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on a reçu en pleine figure, comme paquet d'eau de mer et autres joyeusetés de ce genre. Parce que il y a un moment, lorsque certains politiques ont l'impression que des idées s'installent dans l'opinion publique, il ne faut plus y revenir parce que finalement l'opinion s'y fait et qu'il finit par être d'accord. C'est pas vrai. Il y a un exemple très célèbre d'une décision impopulaire, ou en tout cas dont on savait que l'opinion publique n'était pas favorable, qui a été prise quand même, c'est l'abolition de la peine de mort par François Mitterrand. Par François Mitterrand et le Parlement français. Je ne dis pas qu'ils ont bien fait, je dis qu'ils l'ont fait, en dépit du fait qu'on savait parfaitement à l'époque que l'opinion publique était défavorable. Donc on peut parfaitement aller contre ce qu'on comptait être l'opinion publique ou ce qu'on pense être le progrès pour revenir sur une loi. Ce débat gêne tout le monde. Les saisines du Conseil constitutionnel par le président du Sénat et le Premier ministre sur la future loi euthanasie, si elle est votée cet après-midi même, sont le signe, non pas d'une volonté de la censurer, mais d'une gêne sur le thème, pourvu que le Conseil constitutionnel censure les dispositions qui sont insupportables pour la rendre à peu près présentable, cette loi, et l'honneur sera sauf. Voilà ce que je pense être plutôt la mentalité. Dans ce contexte, cette loi sera enterrée dès qu'elle a été votée, et je suis persuadé que ça ne sera pas un thème.
Personne ne pourra la mettre dans son programme présidentiel. Nous reviendrons sur l'euthanasie, ou même, sans parler d'abolition, restreindre encore plus.
Il faudrait pourtant le faire parce que il y a une portée symbolique, encore une fois, dans cette loi. C'est-à-dire que comment pouvez-vous rassurer une société sur son avenir si, dans le même temps, vous lui dites mais vous pouvez mourir demain matin parce que cette loi est un véhicule formidable pour les patients tristes, vous l'évoquiez tout à l'heure. Il y aura des pressions familiales internes, des patients, c'est déjà le cas d'ailleurs, qui disent « je suis en trop, je suis une gêne pour les miens, je suis un poids, etc. Vivement que je m'en aille, vous ne pouvez pas m'aider docteur ». Enfin, on entend ça de manière très fréquente. Donc toute cette violence contenue aujourd'hui par l'interdit de tuer vont se libérer et propagent à leur tour leurs propres mauvais fruits dans l'ensemble des relations sociales. Enfin, il y a un esprit qui plane dans notre pays sur le fait que la vie n'a pas de valeur, puisqu'on inscrit l'avortement dans la Constitution, on légalise l'euthanasie, la liberté est souveraine par rapport aux choses qui pourraient la contenir. Enfin, tout ça est un ensemble de fragilités terribles qui sont des obstacles à la reconstruction du corps social et au redressement du pays. C'est pour ça que les politiques feraient bien de s'en saisir malgré tout.
– Alors, un autre sujet toujours lié à l'euthanasie qui a été peu évoqué lors des débats parlementaires, c'est la question du trafic d'organes. Pensez-vous qu'il y a un véritable risque que cette euthanasie soit le déguisement d'un vaste trafic d'organes ?
Elle en sera en tout cas
le chantage au trafic d'organes.
Elle en sera en tout cas l'occasion. Ça, c'est certain. Trafic d'organes, certainement, parce que depuis qu'on sait greffer des organes, c'est-à-dire qu'on sait les enlever et les prendre, ben, entre les deux, il y a un mouvement. S'il y a un mouvement, il peut y avoir des détournements et de l'argent. Donc tout ça existe depuis longtemps. Il y a des pressions déjà qui existent dans les hôpitaux. On explique qu'il va falloir débrancher le malade parce qu'il a un foie, un rein, je sais pas quoi, puis il y a quelqu'un qui en attend. Donc soyons raisonnables dans le cadre de la loi actuelle. Hein, comment dire, ça existe déjà. Ça sera évidemment accentué par la légalisation de l'euthanasie puisque, comment dire, les modalités de fin de vie, comment dire, des patients et d'accélération de leur fin de vie sont beaucoup moins encadré que dans le cadre de la loi actuelle qui est stéréotique, qui était déjà, sous certains rapports, risqué. Donc, oui, évidemment, je ne dis pas que ça se passera partout, parce que quand même, on n'en est pas à ce niveau de... Je ne pense pas de trafic généralisé, même s'il y a des trafics d'organes et concerne également des hôpitaux français, il y a des cadavres qui disparaissent, il y a des enquêtes de police et des procédures judiciaires en cours sur des cas très célèbres. Dans ce domaine, on sait... J'avais été saisi, moi, comme parlementaire, et Mme Boutin également, d'ailleurs, il y a déjà plus de 20 ans, sur des cas à l'Hôtel Dieu, ou je ne sais plus dans quel hôpital parisien, qui était suspect. Enfin, il y a des familles qui ont des doutes. Tout ça existe depuis très longtemps. Des cadavres, des organes qui sont pris sur des cadavres sans l'autorisation des familles ou alors sans indication particulière. Enfin, tout ça était compliqué. C'est toujours difficile parce que c'est rare, un organe qui fonctionne. Et il y a plus de demandeurs et de nécessiteux qu'il n'y a d'organes en question. Donc, comme... Donc évidemment que dans la mesure où ça facilitera l'accélération de la disparition des patients, par conséquent, ça aura une incidence sur des choses pas très belles, oui, en termes de transplantation et de trafic d'organes.
Alors, autre sujet qui pourrait être un thème de campagne de la présidentielle de 2027, ce serait la gestation pour autrui, la GPA, d'autant plus que Gabriel Attal serait un amateur de GPA éthique, déjà. Quand on parle GPA éthique, pour commencer,
ça fait partie des subversions d'engagés, encore une fois. Quel est le problème de la GPA ? Moi, je ne parle pas d'ailleurs de gestation pour autrui, je parle de mères porteuses. Quel est le problème posé par la question des mères porteuses ? Ce n'est pas qu'on les paye, c'est qu'on leur demande, même si c'est gratuit. Quand j'entends certaines responsables politiques, je ne vais pas les citer ici parce que ça ne va pas leur faire... qui disent « je porterai volontiers l'enfant de ma propre fille ». C'est-à-dire quoi, tu vas être la mère de ta petite fille. Qu'est-ce que ça veut dire en termes quel bouleversement, quel chamboulement ça produit dans l'arbre généalogique, qu'est-ce que ça raconte cette affaire ? Il y a deux problèmes posés par les mères porteuses. Le premier, c'est que c'est une négation de la réalité biologique de la maternité. Au sens où la biologie de la maternité, on le sait maintenant, a des conséquences. Sur le développement du psychisme de l'enfant, il se passe des tas de choses entre la mère et son enfant, qui sont irremplaçables, qui sont uniques, qui ne se reproduiront pas parce que cette période est limitée évidemment dans le temps, et qui construisent également l'enfant en question. S'il en est privé par la suite, on ne sait pas ce que ça fait, mais en tout cas, ce n'est pas prévu comme ça. Donc ça ne va pas très très bien se passer. Et la deuxième chose, c'est de l'esclavage. C'est-à-dire, c'est au sens de... Pardon, la définition que donnait Emmanuel Kant, ce n'est pas la meilleure ni la seule, mais elle est malgré tout juste. De la dignité humaine, qui consiste à ce que jamais aucun être humain ne soit utilisé comme un instrument, mais plutôt comme une fin. C'est-à-dire qu'on ne se serve pas des gens, mais qu'on les serve. Si on traduit en français courant, ça veut dire ça. La pratique des mères porteuses, le recours à des mères porteuses, est une attaque frontale, monstrueuse, contre la dignité de la femme, qu'on la paye ou non. Le problème, c'est pas que ça soit payant. Le problème, c'est que ça existe et qu'on recourt à ce genre de pratique. Donc vous pouvez, c'est comme l'euthanasie, vous pouvez mettre toutes les modalités que vous voulez. C'est de la littérature, comme dirait Verlaine. Tout le reste est littérature. Si l'article 1 il est légal de pratiquer l'euthanasie, etc. Et cette pratique n'est pas un acte, comme dit le code pénal, c'est-à-dire consiste pas à tuer quelqu'un de manière répréhensible, parce que voilà ce que dit la loi. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, délai de réflexion, collégialité, la famille, les tuteurs, tout ce que vous voulez, n'importe quoi, ça existe ou ça n'existe pas, c'est binaire. On a le droit, on n'a pas le droit de supprimer la vie de quelqu'un. Les mères porteuses, c'est pareil. Une fois que vous avez accepté le principe, vous pouvez toutes les modalités que vous voulez. Le problème, c'est le principe, c'est pas les modalités. Alors les modalités peuvent alourdir la gravité de ce qui est porté par le principe, mais ça y est, le mal est fait d'une certaine manière, donc il faut absolument éviter ça. Et j'espère bien que, là, pour le coup, on puisse débattre de cette question des mères porteuses pour couper une fois pour toutes la tête à ce genre de pratique esclavagiste d'un autre âge.
Qui normalement d'ailleurs devrait faire hurler toutes les féministes qui bizarrement sont très timorées sur ces questions.
Oui, oui, c'est tout à fait vrai.
Comme les gens de gauche d'ailleurs qui devraient s'offusquer contre.
Ça c'est le progrès. Il y a deux versions du progrès. Il y a celui qui devrait respecter quand même la dignité humaine. Alors ça c'est l'ancienne gauche. La nouvelle gauche elle est moins à cheval sur ce principe-là. D'ailleurs elle ne sait plus très bien ce que c'est que la dignité humaine. C'est peut-être pour ça, au fond.
J'espère que toutes ces questions reviennent sérieusement pour la prochaine présidentielle, ou en tout cas, on l'espère, pour les années à venir. En tout cas, merci pour ces éclairages, Jean-Frédéric Poisson.
Merci à vous.
Chers téléspectateurs, nous espérons que ce Zoom, bien sûr, vous a intéressé, surtout vu les questions graves qui sont évoquées. Et je vous souhaite une bonne continuation de votre été, et à très bientôt.